Alain Pompidou, vous publiez aux éditions Flammarion un livre sobrement appelé Claude, c'était ma mère. Je sais que vous aviez écrit un livre qui s'appelait Georges, en parlant de votre père.
Oui.
Justement, vous vous appeliez par vos prénoms et vous appeliez vos parents par leur prénom. Pourquoi?
Oh, j'appelais pas mes parents par le prénom, c'est plutôt pour les besoins du livre, pour donner un peu d'intimité, parce que ma mère a quand même une certaine prestance. Les gens de ma génération l'ont bien connue. Ils en ont parlé à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et je pense que c'était le moment de faire un témoignage pour raviver la mémoire de ma mère. Et comme, outre le fait qu'elle a été, comme on dit, première dame, mais ce qui ne se disait pas à l'époque d'ailleurs, c'était la femme du président. Bien. Il y a eu d'autres premières dames après. Mais que, elle était très proche de son mari, d'une part, parce qu'elle s'était rencontrée en 1933 sur le boulevard Saint-Michel, ce qui est merveilleusement décrit d'ailleurs par mon père dans ses mémoires. Et c'était un couple fusionnel. Ils ne se sont jamais quittés. C'est sans doute d'ailleurs le dernier président de la République qui est resté fidèle à son épouse. Bien, c'est pas mal. Mais je pense que c'était le moment de raviver la mémoire de ma mère et en particulier de mettre en lumière la fondation qu'elle a créée en 1969. Elle en a pris la présidence en 1974 à la mort de mon père et qui s'occupe, qui vient en aide aux enfants handicapés et aux personnes âgées. Et donc, c'était le moment de faire ça. Et finalement, ce témoignage qui est sous forme d'un récit, j'ai abandonné tous mes droits au bénéfice de la Fondation Claude Pompidou.
Alors, votre mère, Claude Pompidou, était une fille de médecin. Elle ne se destinait pas particulièrement à devenir une notable à l'envergure de ce qu'elle a été. Vous faisiez rappel de la première dame. C'est vrai qu'avant elle, c'était Madame de Gaulle et que Madame de Gaulle était très discrète vis-à-vis du général. Et le couple Pompidou, on les a vus, revus ensemble dans des soirées, dans des réceptions, dans de grands événements. Et on a toujours remarqué l'élégance de Madame Pompidou. C'est vrai qu'il y avait une autre élégante, c'était aux États-Unis, c'était Madame Kennedy. Justement, cette prestance qu'elle avait, cette élégance qu'elle voulait montrer, c'est venu petit à petit ou est-ce que c'était une volonté de montrer que la France était aussi le pays de la mode?
Mais en fait, c'était une femme qui était très distinguée parce qu'elle avait, elle était un quart britannique. Donc elle avait du sang britannique. Sa mère qui est décédée quand elle avait 7 ans, sa mère avait été victime de la grippe espagnole. Et à ce moment-là, ma mère avait la prestance de sa mère et le caractère de son père. Et son père était donc médecin-chef de l'hôpital de Château-Gontier, dans la Mayenne, en Anjou. Et il avait une caractéristique, c'est qu'il ne faisait pas payer les pauvres parce qu'ils étaient pauvres, et il ne faisait pas payer les riches parce qu'il fallait les soigner. Moyennant quoi, il s'est retrouvé avec rien, et on l'a hébergé à Orvilliers, qui était la maison familiale. Mais elle avait surtout une volonté de se sortir de la bourgeoisie angevine, qui n'avait pas été très tendre avec elle, parce que à l'époque, quand elle avait 17 ans, dans les années 25, eh bien, il n'était pas très bien vu de vouloir passer son baccalauréat. Et elle voulait passer son baccalauréat. Elle était la seule fille dans un collège de garçons après avoir été, comme Madame de Gaulle et comme Bernadette Chirac, élevée par des religieuses, mais ça a été mal vu. Et donc, on n'a pas été tendre avec elle à ce moment-là, mais elle est arrivée à Paris, elle a commencé des études de droit, et puis là, elle a rencontré mon père. Et là, ça a été un coup de foudre. Et il y a eu un deuxième coup de foudre, c'est que le couple, après la guerre, d'abord, mon père a été nommé à Marseille, où ils ont des années extrêmement heureuses, et puis là-dessus, il y a eu la guerre, mon père s'est battu sur la Somme, il y a eu 200 soldats qui sont morts autour de lui, il a été décoré d'une médaille militaire à titre militaire, et puis ils sont arrivés à Paris, et à ce moment-là, ils ont, le jour de la libération de Paris, ils étaient sur les Champs-Élysées, quand le général de Gaulle a descendu les Champs-Élysées avec sa haute stature et entouré de ses compagnons, et mon père a été séduit. Il a pris contact avec un de ses anciens amis de Normal, qui était chef adjoint du cabinet du général. Il lui a écrit cette fameuse lettre en lui disant: j'en ai assez de décliner rose à la rose, mais je voudrais participer à la reconstruction de ce pays. Il est rentré au cabinet du général. Ma mère était ravie qu'il rentre au cabinet du général parce que finalement, ça correspondait à son goût d'indépendance et à sa prestance. Et donc, tout de suite, elle a été attirée par la mode. Elle s'est fait habiller par une petite couturière du quartier. Mais tout de suite, elle a été attirée par la mode. Elle a été attirée par le fait de représenter une grande dame aux côtés de celui qui était le plus proche collaborateur du général de Gaulle, et c'était pas simple à l'époque. Et donc, elle a toujours eu ce goût pour la mode. Et puis, tout d'un coup, alors, moi, je suis arrivé dans la famille en 42. Ça a été, alors là, un émerveillement pour eux, parce que effectivement, ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant et que c'était considéré à l'époque comme étant une vraiment, disons, une tâche en quelque sorte, si bien qu'on n'a pas parlé de l'adoption de cet enfant, hein, et que j'ai été immédiatement pris dans le contexte familial et immédiatement adopté par tous leurs amis. Et on le voit dans la correspondance, que ce soit correspondance à ma mère ou à mon père, et embrasser Alain. Enfin, Alain faisait partie. Le duo fusionnel est devenu un trio fusionnel. Et ça a été une grande chance pour moi, bien évidemment. Mais c'était aussi merveilleux parce que dès 1946, le général quitte le gouvernement en 46, et en 48, Claude et Georges Pompidou achètent avec leur argent de poche leur première toile abstraite. Et puis, non, ils n'ont jamais arrêté de collectionner après disons, les artistes contemporains. Et mon père avait acheté en 29 l'édition originale de La femme sans tête de Max Ernst. Donc, il avait acheté là aussi avec son argent de poche. Et puis, finalement, en 58, le général de Gaulle revient, demande à mon père, qui était devenu directeur général de la Banque Rothschild, lui demande de devenir son directeur de cabinet officiellement, pour une période de 6 mois. Ma mère a peut-être eu un petit mot un petit peu élevé à ce moment-là parce qu'elle préférait qu'il reste plutôt dans le privé. Et pour se faire pardonner, elle lui a offert ce superbe Nicolas de Staël que nous avons sous les yeux en ce moment, l'un et l'autre. Et puis, ils ont continué à collectionner et à s'occuper d'art et de culture. Et en 69, quand mon père a été élu à la présidence de la République, à ce moment-là, ma mère voulait travailler. Et mon père lui a dit, mais non, la femme du président de la République ne peut pas travailler. Tu vas créer une fondation. Il a mis de sa poche un peu d'argent pour amorcer la fondation. Et c'est devenu la fondation Claude Pompidou pour les enfants handicapés et les personnes âgées. Et moyennant quoi, elle n'en a pas pris la présidence tout de suite, puisqu'elle était en fonction. Et puis dès la mort de mon père, en 1974, elle est devenue présidente de sa fondation qu'elle a présidée pendant 35 ans.
Alors, votre mère et votre père, effectivement, passionnés d'art et de culture. Votre père était d'une culture classique. Ses amitiés avec Aimé Césaire ou Senghor en témoignent. Mais
Qu'on
par contre.
Explique au général de grec.
Effectivement. Mais votre mère, par contre, la politique, c'était pas tout à fait sa tasse de thé.
Ah non, alors elle détestait la politique. Elle considérait que la politique, c'était un jeu de massacre. Elle l'a même écrit dans ses notes, et on le retrouve d'ailleurs reproduit dans le livre. Et elle considérait que c'était pas un métier d'avenir. Et elle ne souhaitait pas que mon père fasse carrière. Et mon père n'était pas un carriériste. Mon père était le plus proche collaborateur du général de Gaulle, extrêmement lié à lui, comme ma mère était liée à Madame de Gaulle. Et véritablement, quand effectivement il y a eu les événements de 68, c'est lui qui a tenu le pays. Il y a eu une période difficile quand le général de Gaulle a disparu pendant quelques heures et qu'il est laissé trouver seul à la tête de l'État, mais avec un risque d'insurrection qu'il a. Il a fait en sorte qu'il y ait eu des troubles sociaux, mais il n'y a pas eu de révolution. Il a tenu le pays et les Français ne se sont pas trompés quand ils ont voté pour lui à 58%, malgré la fameuse bombe Markovitch qui était faite pour le déstabiliser à travers la moralité de son épouse, qui était inacceptable compte tenu des liens qu'il y avait entre le couple. Et finalement, mon père, bon, ben, il s'est laissé porter, il a considéré qu'il était le successeur naturel du général de Gaulle. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, après lui avoir dit, vous avez fait campagne pour le référendum, mais vous auriez pu vous déclarer un petit peu plus tard, lui a écrit une très belle lettre en lui disant, mon cher Pompidou, il est archi naturel que vous vous présentiez, c'est du langage gaullien.
Alors, votre mère voyageait avec votre père, bien sûr. On parlait effectivement de sa représentation de la première dame de France et de la France à travers ça. Et ce qui était assez curieux, c'est que dans ses bagages, elle n'emportait pas, elle emportait beaucoup de robes, mais pas que des robes aussi. J'ai cru remarquer qu'elle emportait quelques vivres très rurales.
Je crois que, indépendamment de sa prestance et de son goût d'indépendance, ce qui caractérise ma mère, encore plus que mon père, c'est son authenticité. Elle était totalement authentique et naturelle. Et elle était pleine d'humour. Et effectivement, dans les voyages officiels, bien sûr, fallait emmener, quand elle est partie à Washington, elle a emmené 30 robes avec elle, dans des grandes valises. Et il y avait le coiffeur, il y avait l'attaché de presse. Elle n'a jamais mis le coiffeur dans la valise. Bon, déjà pas mal. Et puis ça prouve aussi une forme de respect humain. Mais elle était extrêmement authentique. Et effectivement, comme il y avait des longs moments d'attente pendant les conversations entre chefs d'État, eh bien, on s'asseyait sur les valises. Elle sortait à ce moment-là un saucisson de Cajarc, c'est-à-dire un saucisson du Quercy, cette propriété que mon père avait acquise en 1962 pour se faire pardonner d'avoir accepté d'être Premier ministre du général de Gaulle. Et il y avait une bouteille de Cahors, un morceau de saucisson, un morceau de pain, et ça saucissonnait en attendant que les chefs d'État terminent leurs négociations. Et cette authenticité, on la retrouve lorsque Claude et Georges Pompidou vont rendre visite en Union soviétique au président Brejnev. Claude Pompidou avait su que le président Brejnev appréciait la baguette de pain. La fameuse baguette de pain française. Alors, elle n'a pas pris de béret, hein, mais elle avait la baguette de pain. Et elle avait pris à l'Élysée du papier d'aluminium, elle a entouré la baguette de pain d'un morceau de papier d'aluminium, elle l'a remise à Brejnev, et ça a détendu les relations entre la France et l'Union soviétique de l'époque.
Alors, quel souvenir vous gardez, vous, l'enfant devenu adulte, devenu aujourd'hui grand-père, de votre maman?
Écoutez, moi je garde de ma mère plusieurs souvenirs. Le sens de la rigueur, une fois où j'avais été maladroit avec un commerçant auquel j'avais dit que s'il ne me donnait pas une sucette, eh ben, je ne reviendrais plus chez elle. Le lendemain, j'avais un grand coup de pied dans le derrière. Donc j'ai eu une éducation assez rigoureuse néanmoins, mais je garde un souvenir merveilleux parce que ma mère et moi, on s'est jamais quittés. Pas plus qu'avec mon père, mais ma mère, c'était ma mère. Et donc, on s'est jamais quitté. Et quand le jour où mon père est parti, il y a eu une période où elle a été extrêmement seule. Et à ce moment-là, tous les jours, moi, j'étais professeur de médecine à l'époque, et tous les jours, je l'appelais à 10 h du matin, parce que je savais qu'à 10 h, elle était libre, elle était disponible. Et pendant 35 ans, je l'appelais tous les jours à 10 h du matin et on se racontait notre vie quotidienne. On parlait de la famille, on parlait de ce qu'elle faisait, on parlait de ce que je faisais et il y avait un lien très très fort qui s'est instauré entre nous.
Vous avez toujours la maison de Cajarc, parce que je me souviens qu'elle avait, en visitant cette maison, peut-être un peu à l'insu d'ailleurs de votre père, dit voilà, il y a deux maisons, on en prend une pour nous et une pour Alain.
Oui, alors effectivement, c'était en fait. Il y avait 100 hectares, 100 hectares impropres à toute culture. On ne pouvait qu'y élever des moutons à raison de un mouton par hectare. C'est vous dire qu'il y avait beaucoup de cailloux, hein. Mais les deux maisons étaient délabrées et mes parents les ont restaurées. Il y en a une qui a été pour moi et pour mes enfants. Malheureusement, quand mon père est décédé, alors quand mon père est décédé, ma mère a continué à entretenir cette maison. Elle y a reçu beaucoup d'artistes, beaucoup d'amis, beaucoup d'écrivains, beaucoup de peintres, beaucoup de grands interprètes comme Rostropovitch ou comme Richter. Et la maison vivait avec des amis de la culture. Ce n'étaient pas les gens de la politique, sauf les Chirac, parce que c'était des grands amis, les Chirac. Aussi bien Jacques que Bernadette. De même qu'Édouard Balladur, ils sont venus tous les deux, lui et son épouse sont venus à Cajarc également. Et puis quand ma mère est décédée, je dois dire que c'était trop lourd à entretenir. Je voulais absolument garder la maison d'Orvilliers, qui est depuis 60, plus de 60 ans dans la famille, là où mes parents sont enterrés, et je ne pouvais pas tout entretenir. Donc je me suis séparé de cette maison à contre-cœur, mais néanmoins. On ne peut pas tout entretenir, pas le temps qui court, et avec l'ISF en plus.
Merci Alain Pompidou. Donc moi je vous invite à découvrir à la fois le portrait de Claude Pompidou à travers ce livre Claude, c'était ma mère aux éditions Flammarion, écrit donc par son fils Alain Pompidou, et puis en même temps bien de découvrir qui était ce couple des années 60. C'était les années heureuses.
Oui, alors c'est ce qu'on appelait les Trente Glorieuses. Hein. C'était des années heureuses et c'était des années qui venaient après les années de guerre, d'une part, et deuxièmement, après malheureusement la guerre d'Algérie qui a été dramatique, qui a été absolument dramatique, dans lequel, enfin dans la fin de laquelle mon père a joué un rôle important, car il avait la confiance du général de Gaulle et le général de Gaulle lui a confié la préparation des accords d'Évian, et mon père s'est déplacé à Neuchâtel deux fois pour négocier avec les autorités algériennes, et il avait une moustache, un chapeau, et de façon qu'on ne le reconnaisse pas. Mais néanmoins, c'est grâce à lui que on a pu aboutir aux accords d'Évian, et là, il y a eu une dissension, tout au moins une analyse qui n'était pas partagée entre Michel Debré et le général de Gaulle. Mon père était beaucoup plus ouvert et il était pour l'indépendance de l'Algérie. Et finalement, ceci a conduit au changement de Premier ministre et à la nomination de mon père en tant que Premier ministre.